Bonjour. Lorsque l'on devient chrétien, une vie et un monde nouveau s'ouvrent pour nous, avec aussi des questions, elles aussi donc nouvelles. Par exemple, certains nous disent qu'ils entendent la voix de Dieu, ou que Dieu leur dit de faire quelque chose. Mais comment peut-on savoir ce que Dieu veut que nous fassions? Est-ce par la prière, la lecture de la Bible? Et puis, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie personnelle avec lui? Des questions légitimes. Et à ces interrogations, on aura raison de vous répondre que plus l'on se rapproche de Dieu et plus lui se rapproche de nous, plus nous développons une relation intime, personnelle avec Dieu, et plus lui nous montre ce qu'il veut pour nous. C'est vrai que certains comprennent que Dieu leur parle par la Bible, par la prière, que d'autres reçoivent des signes, des convictions en rapport avec ce que Dieu veut leur dire. Eh bien, moi, j'ai expérimenté que si, avec humilité et le cœur pur, je cherche la présence du Seigneur, lui se laisse trouver. Et vous, vous le trouverez vous aussi. Séraphin de Sarov, qui était un chrétien russe remarquable, l'a dit avec ces mots à lui. Je le cite. « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Il avait compris que prier et lire la Bible, c'est bien sûr indispensable à notre croissance spirituelle. Mais que ce n'est pas suffisant. Il faut s'engager dans un chemin, aller à la recherche de l'Esprit Saint. Cherchez et vous trouverez, nous dit l'Évangile. Mais alors précise Jésus, c'est au chapitre 15 de l'Évangile de Jean, « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. » Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, mais il doit être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez, vous non plus, porter du fruit si vous ne demeurez pas uni à moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Mais voici comment la gloire de mon Père se manifeste. C'est quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Et je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et voici, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Fin de citation. Mes amis, aujourd'hui, notre monde est menacé et menaçant. Mais si le monde et les médias parlent de mal et de mort, nous, chrétiens, nous sommes les dépositaires d'une parole de vie et nous aspirons à cette joie dont vient de nous parler Jésus. La joie que nous trouvons en vivant donc dans une communion vraie avec le Christ, en restant attachés à lui comme le sarment est attaché à la vigne. Dans une intimité avec celui qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu le mal et la mort et nous donne sa vie. Car c'est par le don de son esprit, sa présence en nous, tout indigne que nous soyons, que lui peut progressivement nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Raison pour laquelle il nous dit et nous redit en cet instant, « Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. » Si Séraphin de Sarov affirmait, j'y reviens, que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Il voulait souligner que l'essentiel est donc bien de ne pas faire obstacle à son action dans notre vie, lui qui veut nous travailler pour nous sanctifier, c'est-à-dire permettre que nous devenions chaque jour davantage semblables à Jésus-Christ. Oh, nos vies chrétiennes ne sont pas sans défaut. Mais en fait, ce n'est pas si grave que cela parce que, justement, nos erreurs doivent nous rendre humbles devant Dieu et nous empêcher de devenir orgueilleux. Oui, moi-même, je suis un chrétien médiocre, un pasteur médiocre. Je ne peux rien par moi-même. Mais voilà qui change tout. L'apôtre Paul avait compris, et il nous l'enseigne, que la grâce du Seigneur suffit à notre vie et que la puissance de Dieu s'accomplit au sein même de notre faiblesse. C'est en 2 Corinthiens chapitre 12. Lui, le Christ en nous, sa vie à lui, en nous, par grâce. La vie avec Jésus. Sa joie en nous. Certes, il n'est pas toujours facile de leur accorder la priorité dans nos choix de tous les jours, car c'est vrai que nous avons à lutter pour accepter au quotidien les changements que le Seigneur nous demande, qui doivent avoir lieu en nous et au travers de nous, désormais, ses témoins, celle de la terre, lumière du monde. Oui, nous dit Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, mes amis, c'est justement l'Esprit Saint qui nous conduit sur ce chemin difficile. Le pasteur Daniel Bourguet, un ami qui a été prieur de la Fraternité des Veilleurs, dont je fais partie, dit que notre vie est simple, mais qu'elle nécessite la sagesse. Eh bien, maintenant, je tiens à vous dire qu'il a raison et que c'est sans doute cette simplicité et cette sagesse qui nous manque à nous chrétiens qui avons tant de peine à vivre selon l'Esprit comme nous encourage à le faire l'apôtre Paul. Je vais donc évoquer cette simplicité de la vie chrétienne, tout en insistant, en même temps, sur la nécessité de la sagesse pour la préserver. Je vais donc le faire en trois points, abordant tour à tour d'abord la simplicité chrétienne et puis le rôle de la sagesse spirituelle et enfin l'équilibre entre simplicité et vigilance. J'y reviendrai. Alors d'abord, la simplicité chrétienne. Il est vrai que l'affirmation selon laquelle la vie chrétienne est simple, cette affirmation peut nous sembler surprenante à première vue, et cela justement dans un monde où la vie spirituelle est souvent perçue comme un combat difficile contre les passions et les tentations que nous devons affronter. Et pourtant, cette simplicité découle d'une relation directe et humble avec Dieu. Elle ne signifie pas l'absence d'efforts ou d'épreuves, mais dans une façon d'aborder la vie, dans une confiance totale en la grâce divine, en sa présence, en son aide, dans une confiance totale en sa providence, en sa fidélité, en sa grâce. Oui, ce qu'il nous faut comprendre dans cette perspective, c'est que la simplicité est avant tout une attitude du cœur. Elle ne consiste pas à trouver des solutions compliquées aux difficultés de la vie chrétienne, mais à nous abandonner avec une pleine confiance à la volonté du Seigneur présent et agissant en nous. Puisqu'on parle des pères de l'Église, savez-vous que ceux qui avaient été jusqu'au bout pour le Christ, qui avaient, comme disait Paul, accompli leur course jusqu'au terme, Eh bien, ceux-là, du temps des pères de l'Église, on les appelait les athlètes de la foi. Je ne sais pas si l'un ou l'autre parmi nous est un athlète de la foi, mais une chose est certaine, c'est que la foi n'est pas une promenade sans difficulté. Elle me fait plutôt penser, la vie chrétienne, à ce qu'on appelle chez nous dans les Alpes une via ferrata, c'est-à-dire un itinéraire destiné à ceux qui sont connaisseurs de la montagne, habitués à pratiquer des itinéraires sportifs aménagés contre une paroi rocheuse, équipés d'éléments métalliques comme des câbles, des échelles et autres aides pour faciliter leur progression et assurer la sécurité des pratiquants. Notre vie chrétienne n'est pas une simple promenade, c'est un combat. C'est une via ferrata. Dans ces via ferrata, il y a toujours un câble qu'on appelle ligne de vie auquel il faut s'accrocher pour traverser tous les passages difficiles. Eh bien, il en va de même avec ce « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Demeurez unis, attachés à moi, comme moi je demeure attaché à vous. Alors, faisant écho à l'exhortation de Paul qui se trouve en 1 Thessaloniciens 5. Paul qui nous dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Les pères de l'Église, ces chrétiens qui vivaient après les apôtres, ont montré l'importance de la prière incessante pour préserver cette simplicité. Pourquoi l'ont-ils fait ? Parce qu'ils avaient compris et surtout intégré dans leur existence quotidienne que la prière permet de garder le cœur pur en évitant de se laisser troubler par des pensées excessives ou des doutes paralysants. Prier sans cesse. Oui, même dans les moments les plus sombres, le chrétien peut ainsi, par sa prière, rester attaché à Dieu sans se laisser emporter, ni par le désespoir, ni par le découragement. C'est donc pour un chrétien consentir à ce que la simplicité de la vie chrétienne consiste à reconnaître que tout vient de Dieu et que notre seul rôle est de tendre les mains humblement et de nous abandonner à lui. C'est dire aussi que la simplicité est un chemin d'humilité précisément qui implique une acceptation de notre condition humaine, faible, fragile, vulnérable, alors même que lui, le Seigneur, nous appelle concrètement à être les témoins de sa lumière et de son amour. Cette confiance, cet abandon entre les mains de Dieu n'est donc pas de la passivité ou du fatalisme, mais c'est une disposition intérieure, ferme, résolue, qui permet d'accueillir chaque situation avec paix et foi, c'est-à-dire en comptant sur le Seigneur, en s'en remettant à lui. Et maintenant, j'en viens donc à notre deuxième point qui évoque le rôle de la sagesse spirituelle. Oui, parce que si la simplicité est essentielle à la vie chrétienne, elle ne peut être vécue sans la sagesse d'une vigilance constante. Et cette simplicité n'est donc pas synonyme de naïveté. Elle nécessite une sagesse qui permet de discerner les pièges du malin et d'éviter les complications inutiles que le monde ou notre propre esprit peuvent nous imposer. Nous pouvons apprendre à distinguer entre une simplicité vraie, authentique, et une simplification trompeuse, facile, qui nous mène à nous illusionner sur nous-mêmes et sur la réalité. Mes amis, cette sagesse est un don de Dieu, un fruit de l'action de l'Esprit de Dieu en nous, pourvu que nous le laissions agir en nous. Et cette sagesse spirituelle est ce qui nous permet précisément de voir au-delà des apparences, d'entendre la voix de Dieu dans le silence et de reconnaître les chemins qu'il trace pour nous. Dans la tradition des pères de l'Église déjà mentionnée, cette sagesse est associée au discernement de nos pensées. Et les pères du désert, en particulier au IVe siècle, déjà enseignaient que l'esprit humain est en effet constamment assailli par des pensées qui viennent de différentes sources. Il y a d'abord celles qui viennent de Dieu, des pensées de paix, d'amour, de prière. Mais il y a aussi nos propres pensées humaines et instinctives. Et puis enfin, hélas, celles qui viennent suggérées par le diable, des pensées de découragement, de colère, d'orgueil, de convoitise, et j'en passe. La sagesse consiste dès lors, pour chacun de nous, à trier entre ces pensées et à rejeter celles qui pourraient nous éloigner de Dieu. Par exemple, la simplicité peut être pervertie par une fausse idée de facilité, tant et parfois que nous sommes de croire que la vie chrétienne ne demande aucun effort, qu'il suffit de suivre son cœur sans réflexion. Or, une simplicité sans sagesse conduit, je le redis, à l'illusion et à l'aveuglement. Bref, il s'agit pour chacun de nous d'accepter que la simplicité chrétienne ne signifie pas l'absence d'effort, mais une orientation constante vers Dieu, une prière qui n'a de cesse, une communion constante avec Dieu. Relisez le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. « Demeurez en moi, dit Jésus, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans sagesse ni attachement au Christ, la simplicité peut se transformer en crédulité, en refus du discernement ou en légèreté dans la vie spirituelle. Alors pour éviter ces pièges, les pères de l'Église nous ont alors rappelé que la sagesse, au fait, s'acquiert par trois moyens essentiels. D'abord la prière, source de lumière intérieure, puis l'écoute des Écritures, qui nous enseigne le vrai chemin, bien sûr, et enfin, troisièmement, l'accompagnement spirituel qui permet d'être guidé par le conseil et les avis de ceux qui ont plus d'expérience que nous dans la foi chrétienne. Alors maintenant, j'en viens à notre troisième point, à savoir l'équilibre entre la simplicité et la vigilance. Pourquoi ? Parce que la prière nous fait justement quitter nos certitudes pour nous faire de plus en plus entrer dans la confiance en l'amour de Dieu. Et ici, ce qui importe, c'est donc bien de nous laisser guider par l'Esprit qui nous est donné, ce qui implique, encore une fois, une relation sincère, humble et profonde avec Dieu, s'exprimant dans une connaissance, dans une relation intime, et vécu au quotidien avec lui. Mes amis, ce mystère ne se démontre pas, mais se vit au travers d'une compréhension avec le cœur et pas avec notre seule intelligence. Une relation vécue dans la simplicité et avec sagesse. Comprenons alors que ce n'est pas un état acquis une fois pour toutes. C'est bien plutôt un équilibre délicat à maintenir jour après jour entre une confiance absolue en Dieu et une vigilance constante contre les pièges du tentateur. Bref, la simplicité est un chemin étroit sur lequel nous avançons, parfois avec assurance, parfois avec hésitation, mais toujours avec l'aide de Dieu, en restant attachés au Christ, en demeurant en lui comme lui nous y appelle. Les aînés dans la foi le savent, la tentation de renoncer peut nous venir sous deux formes opposées. D'abord celle de complications excessives ou au contraire celle du relâchement spirituel lorsqu'on confond la simplicité avec une certaine paresse, imaginant encore une fois qu'il s'agit de laisser les choses se faire sans effort. Eh bien, contre ces deux extrêmes, nous avons donc à apprendre à marcher jour après jour avec Dieu dans cet équilibre subtil qui consiste à rester simple, sans chercher à tout compliquer, à être sage, sans tomber dans une fausse simplicité naïve, et enfin et surtout à prier et discerner ce que Dieu nous demande pour agir ensuite en conséquence. C'est dire que la simplicité, dans notre vie chrétienne, n'est pas une facilité, mais une discipline spirituelle constante et exigeante. C'est à ce prix que se vit la vie chrétienne. C'est bien un chemin d'humilité et de confiance sur lequel il s'agit d'avancer avec vigilance, sobriété et attention que les pères de l'Église nomment « nepsis » d'un mot grec. Voilà, autrement dit, c'est dans cet équilibre entre abandon entre les mains du Seigneur et vigilance spirituelle que réside le véritable art de vivre en Dieu, ce « demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors pour terminer, nous voilà donc aujourd'hui invités à retenir, mais surtout à vivre, la réalité de la prière personnelle, constante, comme un moyen privilégié pour nous laisser remplir du Saint-Esprit et lui permettre d'agir et de nous transformer dans notre vie quotidienne. On peut travailler et puis s'arrêter pour prier. On peut marcher et prier. On peut lire la Bible après avoir prié. On peut lire la Bible puis prier. On peut être en communion constante avec le Seigneur au travers des différentes activités de notre vie. La prière est essentielle parce que c'est par ce moyen, dans la relation avec le Seigneur, que l'Esprit Saint peut agir librement pour nous guider, nous transformer et nous permettre d'approfondir notre vie spirituelle. Et puis, si nous sommes ensemble dimanche, nous le sommes pour louer le Seigneur, pour nous réjouir de sa présence. C'est aussi cela le rôle de l'Esprit Saint, pour que notre vie chrétienne soit pénétrée de sa joie et de sa paix, et pour aimer en retour. C'est cela la loi de l'Esprit, comme dit Paul, autrement dit sa dynamique. C'est cela vivre un chrétien, c'est agir dans et par la présence de l'Esprit Saint. Mais alors, n'oublions jamais que le chrétien sans vie de prière ne serait que comme un oiseau sans ailes, comme un soldat sans armes. Et puis enfin, souvenons-nous que l'Église et chacune de nos vies n'existe que pour transformer le monde et non pour se conformer au monde. Frères et sœurs en Christ, que le feu de la grâce du Saint-Esprit nous inspire et nous fortifie sur notre difficile chemin terrestre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous renouvelle. Amen.